Chers frères et sœurs, en ces jours bénis du temps de Noël, dans la nuit brille une multitude de lumières, lumières des décorations de Noël dans les rues, dans les vitrines, dans nos foyers, et spécialement éclaire ce que le jargon des spécialistes de la décoration intérieure appelle des photophores. Photophore. Photophore, je sors encore ma science en grec, c'est ce qui porte la lumière. Or, Siméon, s'adressant à Dieu le Père, parle de l'enfant Jésus comme d'une lumière. Une lumière qui se révèle aux nations, une lumière qui donne gloire à son peuple Israël. Et de fait, l'enfant Jésus est une lumière réconfortante pour tous les nations et en particulier pour les plus petits. Car vous le savez bien, si Dieu a choisi son peuple Israël, c'est parce qu'il était le plus petit de tous les peuples. Siméon est donc d'une certaine manière un photophore puisqu'il porte l'enfant Jésus dans ses bras. On pourrait même dire qu'il est un christophore. Alors, je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui s'appellent Christophe. Eh bien, voilà. Bravo, Christophe. Vous êtes là. Et donc, d'une certaine manière, vous êtes pour nous celui qui, ce matin, porte la lumière du Christ. Siméon, oui, est un Christophe, un Christophore, parce qu'il porte dans ses bras, enfin, le Christ, le Messie que l'Esprit-Saint lui avait promis de voir avant de mourir. Siméon est un Christophore à la charnière de l'Alliance ancienne et de l'Alliance renouvelée qui transmet à la jeune famille de Marie et de Joseph un message spirituel. Et ce message est encore valable pour nous aujourd'hui, pour nos familles. Oui, Siméon peut nous transmettre à travers ses actions un beau message pour ce dernier jour de l'année. Regardons, oui, ses actions. Il attendait la consolation d'Israël. Il vint au temple. Il bénit Dieu, il les bénit, c'est-à-dire il bénit Marie et Joseph. Il attendait la consolation d'Israël. Nous avons vécu pendant l'Avent un temps d'attente qui a duré 4 semaines. Pas tout à fait, puisque la 4e semaine a été réduite à quelques heures cette année. Et cette attente, elle nous amène à nous mettre dans une attitude, tout au long de l'année, une attitude d'attente, mais une attente qui n'est pas stérile. Une attente plutôt qui nous entraîne à développer 2 vertus. D'abord la vertu de patience par rapport à ce qui n'est pas encore. Alors, je pense par exemple aux enfants qui ont attendu avec impatience les cadeaux sous le sapin. Et puis, 2e vertu, celle de la persévérance, mais cette fois-ci par rapport à ce qui est déjà là. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont pris des bonnes résolutions pendant le temps de l'Avent. Par exemple, lire chaque jour la parole de Dieu. Eh bien, même Noël passé, nous sommes encouragés à persévérer dans cette bonne habitude. Donc l'attente nourrit en nous ces 2 vertus qui sont comme les 2 faces d'une même médaille, la patience et la persévérance. Et l'attente spirituelle engage bien évidemment notre foi. C'est le message de l'Épître aux Hébreux qui évoque les hommes et les femmes jalonnant l'histoire du peuple de Dieu et qui ont cru en l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Et nous aussi, nous sommes dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors certes, tout a déjà commencé avec Jésus-Christ, mais tout continue avec nous. Nous sommes dans l'attente de ce jour où Dieu sera tout en tous. Ce n'est pas encore le cas. Voilà, nous sommes dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu, y compris dans notre Église, dans notre paroisse. Nous avons engagé cette année la démarche promesse, voilà, qui est amenée à se continuer. En fait, qu'est-ce que c'est, si ce n'est l'accomplissement de la promesse de Dieu en chacune de nos vies de baptisés. Et que nos familles soient aussi des lieux d'apprentissage de l'attente, attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Que nos familles soient des lieux d'apprentissage de la patience et de la persévérance. Que nous ne soyons pas soumis au diktat du tout, tout de suite. Alors vous le savez bien, peut-être que même certains en ont reçu à Noël, il y a des instruments merveilleux qu'on appelle les smartphones, en bon français, les téléphones intelligents, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, qui nous permettent, en un petit coup de pouce, pof, on peut faire venir, alors de pas trop loin, parce que sinon ce n'est pas très écologique, tous les produits qu'on veut à domicile, formidable. Voilà. Ou avec une application, pof, on est instantanément en lien avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Ça, c'est bien pratique. Je pense à vous qui avez des enfants voilà, en Erasmus ou bien à Taïwan ou je ne sais où. Mais redécouvrons le plaisir de l'attente et même le désir de l'attente, cette attente qui creuse en nous, finalement, de la place pour l'autre, pour l'inattendu, pour celui, oui, dont nous n'avions jamais espérer la présence. Deuxième attitude spirituelle que nous apprend Siméon, à travers une action toute simple, il vint au temple. Siméon comme Anne sont attachés au temple car il est pour eux le lieu de la présence de Dieu. Il est même pour eux le lieu unique de la présence de Dieu. Saint Luc précise qu'Anne ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit. Mais nous savons, chers frères et sœurs, que depuis la mort de Jésus, lorsque le rideau du temple s'est déchiré, oui, nous le savons, la présence de Dieu n'est pas circonscrite en un lieu. Et les disciples de Jésus sont appelés à servir Dieu partout où la croix est plantée, partout où des humains aspirent à la résurrection. J'entendais ce matin au journal que 55 pays étaient en guerre dans le monde. Eh bien, ce sont 55 pays où la croix est plantée et où des hommes et des femmes, des enfants, attendent la résurrection. Le temple, pour nous, continue de manière symbolique à travers l'Église du Christ, faite des pierres vivantes que nous sommes tous. Et dans cette Église, dans ce temple nouveau, demeure l'Esprit du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, l'Église est notre famille, même si en elle se côtoient des saints et des voyous, pour reprendre le mot d'un grand écrivain. Elle est le lieu où se révèle explicitement le salut en Jésus-Christ. Alors, ne nous lassons pas de venir à l'Église avec une minuscule pour rencontrer l'Église avec une majuscule et y trouver la lumière du Seigneur, la lumière qui nous réconforte. Et que nos familles soient des lieux où l'on apprend à aimer l'Église. Il y a suffisamment de lieux où on dit du mal de l'Église pour que ce ne soit pas dans nos familles. Apprenons à aimer l'Église, l'Église telle qu'elle est, et pas telle que nous la rêverions. Regardons le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Vous savez, le vide, ça n'a pas de consistance. Voilà, je préfère, moi, quand je bois un bon verre de Bordeaux, ça ne m'arrive pas très souvent, avec modération, regardez ce qu'est dans le verre. Troisième attitude spirituelle, la bénédiction. En effet, on dit de Siméon qu'il bénit Dieu et qu'il bénit Marie et Joseph. Toute bénédiction concourt à la glorification de Dieu et à la sanctification des hommes. Parce que la bénédiction, c'est une parole qui dit du bien d'abord à Dieu. Nous l'avons entendu dans le psaume, qui est comme une grande bénédiction. Et rappelons-nous ce leitmotiv, de ce livre. Bénissez le Seigneur, ou béni sois-tu, Seigneur. Oui, bénissons Dieu parce qu'il accomplit sa promesse de salut. Si vous avez le temps d'ici ce soir, je vous invite à noter sur une feuille toutes les fois où le Seigneur vous a fait du bien. Ben, je suis sûr que la feuille ne suffira pas. Et puis la bénédiction, c'est une parole qui dit du bien de la part du Seigneur. Et Siméon bénit Marie et Joseph, d'abord pour qu'ils puissent prendre soin du Christ. Il invoque sur eux la grâce de Dieu pour développer en eux ce qui est bon et pour demander ce dont ils ont besoin pour bien faire. Parce que la bénédiction ne peut jamais être donnée pour développer ou demander ce qui est mal pour Dieu, évidemment pas. Nous avons tous, chers frères et sœurs, tous besoin d'être bénis par Dieu pour avoir la force de tourner le dos au mal et pour tendre toujours vers le bien. Et quand Dieu nous bénit, il bénit en nous ce qui tend vers le bien. Que nos familles soient des lieux de bénédiction, où l'on glorifie Dieu et où les actions humanisantes qui nous rendent plus humains sont encouragées et confiées à Dieu. Nous savons que nos seules forces ne suffisent pas, eh bien demandons la bénédiction du Seigneur sur nous. Pour conclure, écoutons ce que dit Origène dans une homélie sur la Sainte Famille. Si tu viens au temple mené par l'Esprit, tu trouveras le petit enfant Jésus, tu l'élèveras en tes bras et tu diras « Maintenant Seigneur, tu renvoies en paix ton serviteur, selon ta promesse. » Et Origène d'ajouter plus loin « Tenons-nous, nous aussi, debout dans le temple, prenons le Fils de Dieu en nos bras, rendons-nous dignes de la rédemption et de l'accès à une vie meilleure. Prions le Dieu Tout-Puissant, ainsi que Jésus le petit enfant, à qui nous aimerions parler et que nous désirons serrer en nos bras. » Eh bien, chers frères et sœurs, oui, que nous serrions l'enfant Jésus en nos bras, que nos familles soient des lieux où puisse être porté cet enfant Jésus, afin que sa lumière puisse se diffuser le plus loin possible dans ce monde qui a tant besoin de la vraie lumière. Amen.